journal de la mi-journée sur Europe 1 avec vous, Raphaël Duchemin.
Sécurité maximale à la veille de l'acte 19 des Gilets jaunes. Le dispositif à Paris a été repensé. Le maître mot, coordination des services. Et le gouvernement a dû préciser aussi ce matin le rôle exact des soldats de Sentinelle. Le maire du Havre rend son fauteuil. Le successeur d'Édouard Philippe démissionne après la diffusion de selfies où il apparaît nu. Le Premier ministre parle d'une décision responsable. L'Algérie dans la rue pour le 5e vendredi consécutif. Les manifestants maintiennent la pression sur le régime d'Abdelaziz Bouteflika pour dire stop à 20 ans de pouvoir. Mathieu Bock est l'un des rares envoyés spéciaux sur place, nous l'appellerons. Un aide-soignant jugé cet après-midi pour violence sur une pensionnaire. C'est une caméra mise dans la chambre de la vieille dame par ses enfants qui avait révélé ses agissements. Attention à votre assiette. Deux alertes aujourd'hui. La première sur les étiquettes qui nous mentent. La seconde sur les poissons panés. C'est Foodwatch et la CLCV qui ont enquêté. Le foot est le premier match pour les Bleus dans les qualifications pour l'Euro 2020. Première aussi face à leur adversaire moldave. C'est là-bas qu'ils jouent ce soir. Et puis c'est vendredi. On vous donnera quelques idées de sortie pour votre week-end. La météo, Valérie Darmon, et c'est bien ensoleillé, juste nuageux près de la Manche.
Absolument, peu de changements aujourd'hui. On va conserver des conditions anticycloniques sur le pays partout, un tout petit peu moins donc le long de la Manche, partout ailleurs. Le soleil brille déjà généreusement, les maximales sont en hausse progressive. Elles vont atteindre 13 à 19 au cœur de notre journée sur le nord et 17 à 23 sur le sud.
Merci Valérie, à tout à l'heure. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
Que va mettre en place le nouveau préfet de police de Paris pour que l'acte 19 des Gilets jaunes demain se passe au mieux? Didier Lallement, installé hier, a présenté ce matin son dispositif au ministre de l'Intérieur. Bonjour Pierre de Cossette.
Bonjour Raphaël.
Alors il y a plusieurs points. D'abord, la présence des militaires de Sentinelle qui sera bien visible ce samedi. Mais les soldats sont là en appui des forces de l'ordre. Le gouvernement a en fait précisé les choses ce matin pour qu'il n'y ait justement pas de confusion.
Coupé court à la sortie de Benjamin Griveaux mercredi à l'issue du Conseil des ministres, Sentinelle fera son travail habituel, les patrouilles dans les gares et les aéroports, dans les lieux touristiques, et sera appelé à remplacer par endroit des policiers et gendarmes pour des gardes statiques. Pas de maintien de l'ordre. Du côté des armées aussi, on a voulu rassurer tout le monde. Écoutez le colonel Guillaume Thomas, le porte-parole adjoint.
Il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de raison de voir des soldats de l'opération Sentinelle au contact des émeutiers. Les soldats de l'opération Sentinelle n'ont pas vocation à faire du maintien de l'ordre. Ils ne sont pas entraînés, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas équipés à cet effet.
Et si des militaires de Sentinelle venaient à être témoins de rassemblements interdits, ils ont vocation à prévenir la police. L'usage de l'arme ne serait qu'en cas de légitime défense.
Du côté cette fois des policiers et des gendarmes, on a voulu tirer en quelque sorte les enseignements du week-end dernier. Le maître mot, Pierre, c'est coordination.
Oui, d'abord, interdiction de manifester dans des secteurs comme les Champs-Élysées, la place de l'Étoile ou la Concorde sous peine d'amende, 135 euros. Et puis après, il y a l'aspect casseur. Et là, l'idée, c'est d'être plus mobile pour disperser et pour interpeller. Avec des ordres clairs venus d'en haut, un commandement unique à la préfecture de police pour gérer à la fois les CRS, les gendarmes mobiles, les policiers de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture. L'idée, donc, c'est d'être plus mobile avec ces ordres clairs. Et c'est capital pour David Lebars, patron du syndicat des commissaires.
Il y a un chef à Paris, c'est le préfet de police, mais il y a également la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est quand vous avez un escadron ou une CRS qui est agressé, ou à l'inverse qui assiste à une dégradation majeure type l'incendie d'un immeuble, il faut donner de la confiance au chef du dispositif opérationnel pour agir. Tout sera peut-être pas parfait samedi, mais les Français se rappellent d'une chose, le 8 décembre dernier, ils ont vu la police et la gendarmerie à l'action, et on peut mieux comprendre le bilan quand il y a des dommages si on voit quand même que les forces de l'ordre peuvent agir. Ce qui a été déplorable samedi dernier, c'est d'avoir cette sensation que les choses se sont faites sans que les forces de l'ordre puissent agir.
Et parmi les aides dont vont bénéficier ces forces de l'ordre demain à Paris, 6 drones, selon nos informations, et des produits marquants codés destinés à rester sur les vêtements et la peau. Ça, c'est pour les enquêtes judiciaires. Des petites bombes, nous dit-on, mais à la marge, un policier me parlait davantage de gadgets.
Merci Pierre de Cossette. Merci aussi à Aude Leroy et Alain Acco. Et puis on apprend par ailleurs que depuis hier, 2 personnes, un homme, une femme, ont été interpellées dans le cadre du saccage du Phuket. Quant à l'ex-boxeur Christophe Détinger qui avait frappé, souvenez-vous, les gendarmes lors de l'acte 8 des Gilets jaunes, ce midi, on apprend qu'il a été suspendu de ses fonctions d'agent municipal à la voirie, à la mairie d'Arpajon, dans l'Essonne. Voilà pour Paris. Mais vous le savez, les appels à manifester ont été lancés partout en France et plusieurs villes ont d'ores et déjà pris des interdictions car les samedis se suivent et se ressemblent, notamment pour les commerces des centres-villes qui voient leur chiffre d'affaires dégringoler. Pour les aider justement à faire face, des brigades spéciales ont été créées. Leur objectif, offrir un accompagnement et des facilités de paiement, comme à Toulouse. Benjamin Peter les a suivis.
Contribution foncière, TVA, les factures s'accumulent pour Valérie. Elle, qui tient un café familial dans le centre-ville, a perdu plus de 30% depuis le début du mouvement.
Le jour qu'on préfère, parce que c'est là où les familles sont ensemble et ont envie de partager un moment, c'était le samedi. Et ben là, ils viennent plus, quoi. C'est pas facile. Ces larmes, c'est un peu de colère.
C'est pour ces commerçants en difficulté que le gouvernement a mis en place ces brigades, composées d'agents de l'URSSAF ou des finances publiques. Ils viennent proposer des étalements, voire l'annulation de certaines dettes.
Vous aurez sûrement, vu le montant, votre CFE, une remise partielle. D'accord. On va vous faire un plan global.
Moi, ça me va, l'étalement. Oui, mais si j'arrive pas à travailler comme je le faisais précédemment, c'est pas que je veux pas le donner, cet argent, c'est que je le gagne pas, quoi.
Plus de 8 commerçants sur 10 ont subi une chute de chiffre d'affaires. Alors Pierre Falcou de la CCI est très inquiet pour les prochaines semaines.
De jour en jour, nous aidons de plus en plus d'entreprises parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont en manque de trésorerie. Ils ont loupé leur fête de Noël, imaginez. Ils ont loupé les soldes, moins 22% en moyenne. On a peur que dans les mois qui arrivent, ça soit le pire.
Et pour faire face le plus rapidement possible à ces problèmes de trésorerie, la CCI a mis en place un fonds de solidarité de près de 600 000 euros. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Il est 12h35, la suite du journal sur Europe 1. Raphaël Duchemin.
Il dit démissionner pour protéger sa famille. Le maire du Havre a rendu son écharpe hier soir. Luc Lemonnier est pris dans la tourmente depuis la diffusion de photos de lui, nu. Cliché qu'il aurait envoyé à une femme au moins, victime des agissements de l'élu. Le successeur d'Édouard Philippe est un proche du chef du gouvernement qui a d'ailleurs réagi ce matin pour dire que c'était une décision responsable vu qu'on est quand même, Pauline Jacquot, dans une affaire de selfie pornographique.
Oui, c'est en mai dernier qu'une femme alerte les élus municipaux du Havre. Elle leur envoie une lettre accompagnée de photos, un cliché du maire, Luc Lemonnier, nu, qu'elle aurait elle-même reçu sans l'avoir sollicité. En guise de réponse, elle est convoquée chez le procureur de la République. Rappel à la loi pour avoir divulgué des photos personnel. Dans la ville du Havre, certains avaient connaissance de telles photos comme Mathieu Brass, socialiste et conseiller municipal.
J'étais au courant que des photos dénudées du maire du Havre, en effet, circulaient. Par contre, je découvre par la presse les témoignages de femmes qui, en réalité, auraient reçu ces photos sans leur accord et de manière insistante. Ce matin, je suis abasourdi par ce genre de pratique lorsqu'en plus, on est personnage public et on est maire d'une ville de 200 000 habitants.
De son côté, le maire dément et parle d'échange entre adultes consentants.
Mais dites-moi, Pauline, est-ce que le Premier ministre, lui, avait eu vent de cette affaire ?
Alors, c'est évidemment l'une des questions qui se posent. Ce qui est sûr, c'est que ce maire, Luc Lemonnier, est un proche d'Édouard Philippe. Il l'a choisi en 2014 pour être son directeur de campagne au municipal. C'était son premier adjoint. Et par ailleurs, nous savons que le Premier ministre est allé hier matin au Havre, en toute discrétion bien sûr, qu'il a rencontré Luc Lemonnier et qu'en fin de journée, le maire donnait finalement sa démission.
Merci Pauline Jacquot pour ces précisions. Un homme, notez-le, est aussi en garde à vue depuis hier matin, cette fois à Marseille. Il est entendu après l'agression mortelle d'une jeune étudiante de 21 ans. C'était dimanche soir dans le quartier de la Timone. Le mobile semblait être le vol de son téléphone portable. Des tests ADN sont en cours. La garde à vue de ce marginal a du coup été prolongée.
Vous écoutez Europe 1, il est 12h38, la suite du journal avec Raphaël Duchemin.
Et il s'accroche toujours au pouvoir, mais la rue n'en veut plus. En Algérie, c'est un nouveau vendredi de manifestation qui se profile. Toujours le même leitmotiv, mettre un terme au règne de Bouteflika. À 20 ans qu'il dirige maintenant le pays. Et le retrait de sa candidature à la prochaine présidentielle n'a pas suffi à désamorcer le mouvement, car c'est une politique, un clan, que le peuple veut voir disparaître désormais. Mathieu Bock, vous êtes l'un des rares envoyés spéciaux pour Europe 1 en Algérie, et ce sera manifestement le message une fois encore aujourd'hui.
Oui, depuis un mois, c'est le mot d'ordre. En effet, au son des vouvouzela et des klaxons, ils chantent et hurlent leur rejet du clan Bouteflika. Et même sous cette pluie fine qui s'abat sur Alger depuis ce matin, ils sont des milliers, drapeaux noués autour des épaules ou sur la tête, comme armés.
Je suis venu le matin, je dois aller faire ma prière. Je vais à la mosquée et je vais revenir. J'ai ramené mon pactage avec moi. Et je viens tous les vendredis. À 9h du matin, je suis ici.
Et ça sera comme ça jusqu'à ce qu'ils partent.
Ah, jusqu'à ce qu'ils partent. Jusqu'à la dernière limite. On n'en veut pas, bon Dieu de bonsoir. Comment voulez-vous qu'on parle ? Quel est le langage qu'on doit parler avec eux ? La langue de bois ? Eh ben non, il faut qu'ils partent.
Mahmoud, lui, est venu avec ses petits-enfants. Pas question d'abandonner aujourd'hui au 5e vendredi de mobilisation.
On leur a donné l'occasion de sortir par une grande porte. Ils ne veulent pas, on va les faire sortir par la petite porte, par la fenêtre.
C'est pas vous qui allez lâcher les premiers ici dans la rue ?
Non. On veut juste qu'ils quittent. On veut pas des comptes après. Qu'ils nous laissent en paix, c'est tout, qu'ils nous laissent en paix.
Et le plus fort de la mobilisation est attendu à partir de 14h après la grande prière du vendredi et devrait durer jusqu'en fin d'après-midi.
Mathieu Bock à Alger pour Europe 1. Notez que la première ministre britannique est de retour à Londres aujourd'hui. Theresa May a obtenu hier de l'Union européenne un report du Brexit. À elle maintenant de convaincre son Parlement dès la semaine prochaine d'adopter l'accord de retrait qu'elle a négocié avec l'Union européenne. Il est 12h40.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, l'affaire qui avait suscité beaucoup d'émotions au mois de février. Un aide-soignant est jugé pour violence. Il avait insulté et frappé une pensionnaire d'un EHPAD. Elle avait 98 ans.
Il est 12h42 sur Europe 1. La suite du journal, Raphaël Duchemin.
Il avait été filmé en train d'insulter une pensionnaire de 98 ans et de la frapper. Un aide-soignant de l'EHPAD d'Arcueil, dans le Val-de-Marne, est jugé cet après-midi pour violence. Les scènes avaient été révélées en février car les enfants de la nonagénaire, qui avaient des soupçons, avaient placé dans la chambre de leur mère une caméra. Aujourd'hui, c'est donc la justice qui va se prononcer. On est retourné dans cet établissement pour voir comment, depuis, les familles et le personnel appréhendent les choses. Reportage Victor Delande.
Sonia vient voir sa marraine de 96 ans tous les jours. Elle fait très attention aux gestes des aides-soignants et pour elle, rien à redire dans cet établissement.
Vous savez, c'est une maison vraiment bien. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place, comme vous voyez, parce que si on trouve quelque chose de bien, il n'y a pas beaucoup de place. Hein.
Lucienne, elle, rend visite à sa mère de 94 ans. Elle a assisté à une réunion de la direction de l'EHPAD 2 jours après les faits. Elle a été rassurée.
Pour éviter qu'il y ait une trop mauvaise réputation, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu plus présents, parce que c'est pas toujours facile pour eux non plus.
Selon nos informations, la direction de l'établissement a réclamé la présence d'une troisième personne pour s'occuper des 85 résidents la nuit. En vain pour le moment, car pour l'avocat du gérant de l'EHPAD, ADF Résidence, cette affaire n'a rien à voir avec un manque de moyens.
C'est une responsabilité personnelle. Et à aucun moment, le fait qu'il y ait eu 2 personnes ou 3 personnes n'aurait pu éviter une agression qu'aurait pu se passer dans le métro, qu'aurait pu se passer dans la rue.
L'aide-soignant risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Victor Delande. Et par ailleurs, on apprend qu'il y a une deuxième plainte déposée par une autre famille de résidents. Il s'agit de la pensionnaire de la chambre d'à côté pour des soupçons cette fois de maltraitance, mais qui ne serait pas en lien direct avec l'aide-soignant qui doit répondre aujourd'hui de violence devant la justice.
Il est 12h44, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
Êtes-vous du genre à croire toutes les promesses que vous font les étiquettes sur les produits que vous achetez? Car ce vendredi, c'est l'ONG Foodwatch qui nous alerte pour dénoncer ce qu'elle appelle les faux aliments miracles dans son collimateur lors d'Autriche, ceux qui se vantent notamment d'être soit détox, soit minceurs.
Oui, des infusions de la marque Elephant, présentées comme détox parce qu'elles sont constituées de queues de cerises, des smoothies de la marque Innocent qui portent l'étiquette antioxydant ou énergisant, mais qui sont presque aussi sucrées que le Coca-Cola, ou encore des margarines qui vous promettent de réduire votre taux de cholestérol, mais qui sont efficaces seulement si vous mangez 6 tartines par jour. Toutes ces allégations sont mensongères, dénonce l'association, qui a même déposé plainte contre un site internet, le site biologiquement.com, qui présente certains compléments alimentaires comme ayant des vertus anti-cancer, une mention interdite par la loi, explique Karine Jacquemart, la directrice de Foodwatch.
Faire croire aux gens, et malheureusement des gens souvent vulnérables, puisque ça peut être des gens atteints d'un cancer, de leur faire croire que grâce à ces compléments alimentaires, ils vont pouvoir prévenir le cancer ou même le guérir. Ça c'est grave parce que c'est illégal et c'est dangereux.
Alors la Commission européenne est censée valider ou non plus de 2000 allégations santé mises en avant par les industriels et éventuellement donc leur interdire de continuer à inscrire cela sur les emballages, mais le dossier est en attente depuis 7 ans. Rien donc n'a été tranché.
Alors, c'est aussi aujourd'hui que la CLCV publie son enquête sur les poissons panés. Si vous en avez dans l'assiette en ce moment, ça va vous faire tout drôle.
Ah hein. Oui, l'association de consommateurs montre effectivement dans une enquête qu'il y a trop d'additifs, d'arômes, de sucre ajouté dans les produits panés. Elle a analysé des poissons panés classiques, mais aussi en croquettes ou nuggets, aussi bien au rayon frais que surgelé. Le problème, c'est que souvent, l'étiquette n'indique pas la provenance du poisson, mais surtout, les experts ont constaté qu'il y a en moyenne que 60% de poissons dans les poissons panés.
Merci, Laure d'Autriche.
Il est 12h46, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
Ça va mal et ça dure pour Boeing. Après le crash d'il y a 10 jours en Éthiopie, le constructeur américain a bien décidé de revoir les équipements de son 737 Max, mais manifestement ça ne te convainc pas. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
En Indonésie, la compagnie aérienne Garuda est la première à annuler une commande.
Oui, 49 avions des Boeing 737 Max 8 exactement
changement du modèle de ceux qui se sont écrasés le 10 mars et en octobre. C'est le début d'une pente glissante pour Boeing, car ces appareils, ça coûte un peu d'argent quand même. Cette annulation représente pas loin de 5 milliards de dollars. Et cette compagnie indonésienne, Garuda, hésite entre remplacer ses avions par d'autres Boeing ou plus vraisemblablement par des appareils d'un autre constructeur. Airbus, évidemment, avec ses A320neo, est très bien placé.
Dites-moi, pour la nouvelle génération de 737 MAX, quelles sont les modifications ?
Eh bien, c'est une option qui devient désormais un équipement de série, un peu comme dans les voitures quand la direction assistée est devenue la norme. Boeing va installer sur tous les 737 MAX un signal lumineux qui préviendra les pilotes d'un dysfonctionnement. Car même si l'enquête est loin d'être terminée, le constructeur semble croire que le système anti-décrochage soit en cause. C'est ce qui est censé alerter quand l'avion perd de l'altitude de façon incontrôlée. Donc, si ce système-là donne une information différente de ce que disent les autres instruments dans le cockpit, une lumière bien spécifique s'allumera automatiquement.
Merci François Geffrier. François de Rugy, lui, sera cet après-midi à La Rochelle, le ministre de la Transition écologique très attendu à l'Observatoire Pélagie spécialisé dans les mammifères et les oiseaux marins, parce que depuis le mois de janvier, ce sont, écoutez bien, plus de 1100 dauphins qui ont été retrouvés morts sur la côte atlantique. Une hécatombe qui appelle des mesures. Olivier Van Canet fait partie de l'équipe qui accueillera le ministre, et même si les dauphins communs ne sont pas une espèce menacée, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas les protéger.
Quand on a 1000 carcasses qui s'échouent, déjà, on sait que ça représente une fraction de ce qui meurt en mer. Donc dans tous les cas, étant donné que ce sont des animaux quand même qui ont un taux de croissance et un taux de reproduction très très faible, quand on en enlève autant dans une population, forcément, ça a un impact sur la population. Le jour où on arrivera à voir s'il y a un déclin dans la population, il sera malheureusement trop tard. Donc c'est ce qu'on veut éviter. Donc aujourd'hui, on va dire que la situation est préoccupante. Elle est très préoccupante vu les nombres que nous avons sur nos côtes. On n'est pas capable, par contre, effectivement, d'identifier s'il y a un déclin ou pas aujourd'hui.
Olivier Van Canet avec Justin Morin.
Il est 12h49.
Europe 1. Dans un instant, tout en Camon, James Bond et les Bleus, c'est le programme qui vous attend. À tout de suite.
Il est 12h51, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
Ils disent eux-mêmes que la France, c'est l'adversaire le plus difficile de l'histoire de leur équipe. Les Moldaves accueillent ce soir les Bleus au Zimbrou Stadium de Chisinau pour le premier match de qualification à l'Euro 2020. Ce sera une grande première, Cyril de la Morinerie, pour l'équipe de Didier Deschamps, qui n'a jamais affronté ce 11-là. On est un peu quand même en mode découverte, hein.
Exactement. Alors, ce que vous entendez là derrière moi, c'est tout simplement l'ambiance du marché ce matin. Et les supporters, eh bien, ont pu découvrir cette ambiance, ces rues animées de Chisinau, cette Moldavie qui est située entre l'Ukraine et la Roumanie, on le répète, qui est en quelque sorte la Bourgogne de l'Est, un pays vallonné où le vin rouge notamment est fameux. Et les Moldaves savent accueillir. Loïc, qui vient de Haute-Savoie, supporter donc de l'équipe de France, ne regrette pas ce déplacement inédit.
Ici, c'est top. Les gens, ils sont gentils, accueillants. On dit que c'est le pays le plus pauvre d'Europe, mais non, c'est pas vrai. On n'irait pas en vacances en Moldavie, mais on va revenir parce que c'est bien. Et c'est grâce au foot, on peut découvrir des pays comme ça et c'est génial.
Alors attention, c'est un match piège par excellence, a rappelé hier Hugo Lloris, qui a en face cette équipe moldave qui encaisse peu de buts, composés de joueurs pour ainsi dire inconnus, qui évoluent en Russie, en Italie notamment, est ultra motivé. Christophe, membre des Irrésistibles Français, se montre d'ailleurs très prudent.
On devrait gagner 3-4-0, on devrait. Mais France-Luxembourg, il y a deux ans, 0-0. Il y a Andorre, il y a 10 ans, on gagne 1-0 à la dernière minute. On peut... hélas, faire un 0-0. Dans le foot, on ne sait jamais.
Oui, on ne sait jamais, car il y a deux ans, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, les Bleus avaient démarré par un nul décevant en Biélorussie. Cela n'avait pas empêché les Bleus de finir en tête de leur groupe. Mais Didier Deschamps veut débuter cette campagne de qualification pour l'Euro avec 3 points, afin d'aborder le match contre l'Islande prévu lundi prochain au Stade de France en toute sérénité.
Merci Cyril, on vous retrouve à Chisinau, hein, j'ai bien noté, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. 20h45 ce soir sur Europe 1. Et puis ça y est, on sait à qui les organisateurs du Tour de France ont délivré les deux dernières cartes d'invitation pour la prochaine grande boucle qui partira le 6 juillet de Bruxelles. Ce sont les équipes Direct Énergie et Arkéa Samsic qui prendront le départ avec le reste du peloton.
Il est 12h53, la suite du journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin.
Et nous sommes vendredi, comme chaque vendredi, des idées de sortie, de découverte aussi avec vous. Thierry Geffrotin, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Et pour commencer, on va jouer les Champollions.
Ah oui. Et cette grande question, la Toutankhamon Mania va-t-elle à nouveau s'emparer de la France ?
Comment vous dites ?
Toutankhamon Mania. 52 ans après une exposition qui avait fait date à Paris, voici Toutankhamon, le trésor du pharaon. C'est à partir de demain, on en a déjà beaucoup parlé, on a l'impression que c'est déjà ouvert. Mais non, ça ouvre demain jusqu'au 15 septembre à la Grande Halle de la Villette. Le directeur de la Villette, Didier Fusilier, s'est confié à Diane Chinouda. Il dit son bonheur d'accueillir de tels trésors.
On est devant un émerveillement de ces objets qui ont 3000 ans, qui sont quasiment intacts, évidemment. C'est ça qui est quand même exceptionnel. Et puis une présentation aussi très très sobre. On ne voit que des objets. Oui, on est vraiment heureux.
Les 9 premiers week-ends sont déjà quasi complets, mais vous pouvez réserver vos créneaux horaires sur Internet ou tenter votre chance sur place.
Allez, sinon on peut partir à Rennes pour le Festival Rue des Livres.
Exactement, 2 jours de festival, demain et dimanche, du côté du Parc des Gailleuls, au programme des rencontres avec Yasmina Kadra, Laurent Gounel, Jean Rouault. Des écrivains de polar, de science-fiction sont présents, de la bande dessinée, aussi de la littérature jeunesse. Bref, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Demain et dimanche, Rue des Livres, à Rennes.
On lui doit, entre autres, qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ou ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine.
Exactement. Paul Misraki, décédé il y a 20 ans, continue à vivre grâce à ses chansons, en particulier grâce à un spectacle, Qu'est-ce qu'on attend pour être môme, qui sera donné lundi prochain au Théâtre des Jazzés à Paris. Et ce sont des enfants qui chantent Misraki. Le même jour, lundi donc, sorti du livre CD « Tout va très bien » chez Formulette avec Yves Duteil, Old Olaf et Alex Vizorek.
Et puis on va profiter du week-end pour regarder tous nos vieux James Bond.
Eh oui, et il y en a. Et guettez les vroom vroom de l'Aston Martin du célèbre agent secret parce que c'est fini pour la 25e aventure qui est en cours de tournage. Daniel Craig est passé au bolide rechargeable 100% électrique. Mais que les amateurs de sensations fortes de poursuite se rassurent, la nouvelle Aston Martin atteint les 250 km/h chrono et passe de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes.
Merci Thierry Geffrotin.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la météo, le rappel des titres et la France qui bouge avec Raphaël Duchemin.
Europe 1. Et devinez quoi, Anissa, on va parler d'eau minérale aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. On vous attend 39-21 et sur Twitter, hashtag Europe 1. Et c'est l'heure de la météo sur Europe 1, Raphaël Duchemin. Valérie Darmon, c'est plus nuancé demain, ce sera mitigé au nord, ensoleillé au sud, c'est ça ?
Et c'est ça, et les températures toujours aussi agréables. Alors sur les régions voisines de la Manche, les Pays de la Loire, le centre, le bassin parisien, c'est gris le matin avec localement des brouillards qui vont se dissiper assez lentement. Et surtout au fil des heures, la Normandie et le Hauts-de-France vont garder un ciel bien chargé. De la Bretagne à la Lorraine, le ciel sera un petit peu plus variable entre éclaircies et nuages au programme. Sur le reste de la France, hormis les quelques brouillards du matin localisés en Val-de-Saône, en Lorraine et le long du Rhin, au lever du jour seulement, eh bien le beau temps va revenir partout. Et je le disais, les températures restent agréables avec 24 annoncées tout de même sur la région de Nice ou encore sur la Corse. Mais le long de la Manche, il fera entre 11 et 16.
Merci Valérie Darmon.
L'essentiel de l'actualité de ce vendredi 22 mars avec vous Raphaël Duchemin.
Sécurité maximale à la veille de l'acte 19 des Gilets jaunes. CRS, gendarmes mobiles et policiers vont bénéficier de l'aide de 6 drones dans les airs. Ce sont les informations d'Europe 1 ainsi que de petites bombes aérosols contenant des produits marquants destinés à rester sur la peau pendant plusieurs semaines. Pour ce qui est des soldats de Sentinelle, le gouvernement a fait une mise au point. Hors de question de les impliquer dans les opérations de maintien de l'ordre. Jean-Luc Mélenchon demande d'ailleurs à ce sujet au Premier ministre de venir s'expliquer. Deux avocats ont aussi décidé d'interpeller le défenseur des droits sur la question. Le maire du Havre, Luc Lemonnier, le successeur d'Édouard Philippe, démissionne après la diffusion de selfies où il apparaît nu. Le Premier ministre parle d'une décision responsable. Un homme est en garde à vue depuis hier matin à Marseille. Il est entendu après l'agression mortelle d'une jeune étudiante de 21 ans. C'était dimanche dans le quartier de la Timone. Le mobile semblait être le vol de son téléphone portable. En Algérie, nouveau vendredi de manifestation. 5 semaines que ça dure pour demander toujours le départ du président. Président Abdelaziz Bouteflika. Et puis le football ce soir, l'équipe de France se déplace en Moldavie. Premier match pour les Bleus dans les qualifications pour l'Euro 2020. Le coup d'envoi de la rencontre, c'est à 20h45 sur Europe 1.
Merci Raphaël, retour de l'info dans une heure. Très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Il est 13h.